Donc tout de suite, je vais laisser la parole à Dan Ferrand-Bechmann pour un rappel historique et l'évolution du bénévolat.
Beaucoup. D'abord, je voudrais remercier beaucoup Émilie et Marilyn qui m'ont invitée et puis les échanges que j'ai eus avec elles. Je suis très contente d'être à Rennes, j'aime bien Rennes et je trouve qu'il s'y fait toujours plein de choses intéressantes et surtout au niveau culturel. Et aussi au niveau culturel. Alors moi, je suis chargée de vous donner un petit regard sociologique, laissant à quelqu'un qui est beaucoup plus expert que moi la présentation plus économique et les chiffres. Comme ça, il a la partie ennuyeuse et moi la partie moins ennuyeuse. Mais enfin, ça, on verra après. Alors la première chose que j'aurais souligné, c'est la définition du bénévolat. Alors c'est évident. Mais en même temps, je crois que c'est important de le repréciser parce qu'on s'aperçoit qu'il y a souvent un certain nombre de confusions. Les bénévoles, c'est des personnes qui donnent un temps gratuit, qui n'y sont pas obligées et qui le donnent pour les autres. Alors un temps gratuit, ça veut dire qu'ils ne sont pas payés, ils peuvent éventuellement être défrayés. Sans obligation, ça veut dire que par exemple, si vous occupez de votre père qui est malade ou vieux, il y a une obligation, donc vous n'êtes pas bénévole. Mais par contre, quelqu'un qui vient le visiter bénévolement est bénévole. Et s'occuper des autres, ça veut dire qu'effectivement, quand vous jouez au tennis, c'est pas obligatoire et vous n'êtes pas payé. Mais c'est pas du bénévolat. Voilà, j'ai fixé les choses. Ce qui est curieux, c'est que très souvent, il y a une confusion, par exemple, entre les adhérents et les bénévoles. Les adhérents, ils vont dans une association, ils prennent leur adhésion, leur membership, et puis, voilà, ils peuvent devenir bénévoles, mais a priori, ils ne sont pas forcément bénévoles. Les bénévoles, c'est vraiment des gens qui participent. Je crois qu'on va pas en dire davantage. Les salariés, vous savez probablement ce que c'est. C'est des gens qui font quelquefois la même chose que les bénévoles, sauf qu'ils sont salariés. Ils sont financés. Ce qui est important aussi, c'est de souligner les différentes formes associatives, parce qu'on est maintenant dans un contexte européen, même dans un contexte, j'irais, mondial, et qu'il y a des particularités françaises. La loi 1901, c'est une loi française, et elle n'existe qu'en France. Hein. Moi, j'ai travaillé à un moment donné pour comparer, par exemple, en Angleterre, il y a les charities, et en France, la loi de 1901, c'est quelque chose de très, très particulier. C'est vraiment une loi de liberté. Il suffit d'être deux personnes pour, avec un objectif commun, pour constituer une association. Il se trouve qu'il y a deux types d'associations. Il y a des associations où les personnes s'occupent d'un problème qui n'est pas forcément le leur. Par exemple, si vous faites partie des Restaurants du Cœur en tant que bénévole, vous avez probablement suffisamment de revenus vous-même pour vous nourrir. Alors que si vous faites partie des Alcooliques Anonymes, vous êtes quelqu'un qui avait eu des problèmes avec les questions d'alcoolisme et vous occupez de personnes qui ont les mêmes problèmes. C'est très important cette différence parce que d'un côté, on s'occupe de personnes qui n'ont pas les mêmes problèmes que soi, et d'un autre côté, on va s'occuper de personnes qui ont les mêmes problèmes que soi. Et il y a des pays européens où, globalement, la structuration de la vie associative et l'engagement bénévole se fait surtout dans ces groupes d'entraide. Alors, je pense, par exemple, à un pays qui n'est pas européen, qui est le Canada, mais qui a quand même des identités avec l'Europe. Et effectivement, ça constitue quelque chose de très différent. Alors, il y a des associations qui refusent absolument que des personnes qui ne sont pas touchées par un problème y viennent. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des associations dans la santé. Si vous n'avez pas un cancer du sein ou si vous n'avez pas perdu un enfant, vous ne pouvez pas être dans une association où on s'occupe du cancer du sein ou si vous n'êtes pas endeuillé par la... Vous pouvez pas aller dans les groupes d'entraide. Il y a des groupes qui ont évolué. Je pense par exemple à AIDS. Au début, c'était que les personnes qui étaient touchées par le virus ou qui travaillaient, enfin qui aidaient des personnes qui avaient cette question, qui avaient un proche parmi eux. Puis peu à peu, il y a eu des mixtes. Mais c'est une des constantes des associations en France quand même, c'est que c'est souvent des gens qui ont un peu une identité commune. Ça pose des problèmes d'ailleurs parce que vous avez des associations qui sont un peu ghetto, je dirais. Alors dans la culture, on en parlera, il y a des particularités qui viennent souvent quelquefois des pratiques ou des passions communes. Je vais dire aussi, et c'est pas évident pour toutes les associations, qu'il y a beaucoup de bénévolat qui se fait hors structure. D'ailleurs même à l'hôpital, il y a des personnes qui vont voir des malades et qui ne font pas partie d'associations. L'hôpital vous dira non, tout le monde est dans une... Non, mais c'est pas vrai. Dans la culture, vous avez des gens qui font du bénévolat, qui vont par exemple aller, je sais pas, animer un quartier et qui ne font pas partie d'une association. Et de plus en plus en France, parce que après tout, on en a un peu assez de ces structures qui sont quelquefois lourdes, il y a des engagements hors structure. Alors on appelle ça des bénévolats informels, on parle quelquefois de collectifs, de, moi je dis, c'est du mouvement social aussi qui a part derrière. Et c'est, vous savez, on voit bien qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont engagées dans les syndicats. Qui a des mouvements, par exemple les bonnets rouges. Alors on va pas commencer à discuter des bonnets rouges parce qu'on est loin des bonnets rouges ici. Mais non,